Avoir château dans le Lot. Une visite et découverte des châteaux lotois présentés par Martine Dufour et Marie-Madeleine Rey.
Bonjour chers amis auditeurs, nous nous retrouvons avec un très grand plaisir au château de Lantis en compagnie de Françoise Barbier-Damiette. Bonjour Françoise.
Bonjour chers auditeurs, bonjour chers amis.
Bonjour Marie-Madeleine.
Bonjour Martine, bonjour Françoise et bonjour à tous.
Alors Marie-Madeleine, nous sommes arrivés au château sous un soleil extraordinairement beau.
Magnifique.
Un ciel extraordinairement bleu également. Et nous avons vu cette magnifique façade du château de Lantis. Et Françoise, nous étions dans une autre partie du château qui sont les dépendances, où nous étions près d'un four, nous en avons parlé à la dernière émission, et de la forge. Et nous sommes actuellement, là tout de suite, au moment où je vous parle, dans le château. Nous sommes entrés dans cette belle salle à manger, Françoise. Mais je crois que vous m'avez un peu grondée avant l'émission, parce que je crois qu'on m'avait dit que la salle à manger, c'était pas tout à fait ça.
Effectivement, la salle à manger est une notion du 19e siècle et qui n'existait pas du tout au moment de la création du château, que ce soit le 15e ou le 17e. Il n'y avait pas de salle à manger puisque c'était en plus le château de Lantis, c'était une caserne, un bâtiment militaire avec une cuisine qui était un des pôles importants, bien sûr, pour nourrir le régiment, cuisine voûtée, cuisine où toute la garnison, il y avait 15 officiers et la famille du seigneur, qui prenaient leur repas dans la cuisine. Les 100 sergents d'armes prenaient leur repas théoriquement ailleurs, dans des écuries ou dans des communs, ailleurs en tout cas.
Ah oui, alors vous allez me dire encore que je me trompe, Françoise, mais vous allez vite arranger tout cela, parce que j'aperçois complètement sur la droite, et alors une petite porte, il ne faut pas être très 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 grand, parce que moi j'y passe juste, j'aperçois comme une cuisine, mais c'est peut-être pas ça.
Alors non, il n'y a pas de cuisine. Non, non, la cuisine, c'est la pièce voûtée dans laquelle nous nous trouvons. Mais cette petite tour excentrée que vous avez pu voir à l'extérieur, c'est-à-dire excentrée en dehors du bâtiment, ce qui permettait un tir croisé sur les quatre orientations, en plus.
Et oui, puisque vous nous aviez déjà expliqué que c'était un point de vue stratégique.
Voilà, c'était une tour de défense. Mmh. Tour de défense avec quatre bouches à feu. Qui était doté de couleuvrines. La couleuvrine, c'est un petit canon qui envoie des petits projectiles, des petits boulets, oui, en pierre, et que nous avons retrouvé certains d'ailleurs dans le jardin. Et il y avait donc quatre militaires attitrés dans chaque tour et à chaque niveau.
D'accord.
Donc, si je comprends bien, la petite cuisine dont on parle, qui est excentrée, c'est la base de la tour que vous avez découverte en premier.
Voilà.
Qu'on appelait pigeonnier à l'époque.
Oui, alors le pigeonnier, c'est le troisième étage de cette tour. Puisque là, on a une tour de défense. Au-dessus, on a une autre tour de défense qui, accessoirement, servait de chapelle. Et au-dessus, on a encore une autre tour de défense en duplex, peut-on dire, puisqu'elle est double. Et autrefois, il y avait certainement des ourdes, c'est-à-dire un passage qui permettait aux soldats de pouvoir mitrailler tout à fait au troisième étage, sachant que tout en haut, dans cette tour, nous voyons dôme.
Oula.
Et nous voyons les lumières de Gourdon.
Ah, oui.
C'est-à-dire que quand le château de Gourdon existait encore, sans doute ces deux châteaux pouvaient correspondre.
Ah oui, Dôme en Dordogne.
Dôme en Dordogne.
Ah, effectivement. Oui. Effectivement, c'est quand même pas non plus le château qui est juste à côté.
Enfin, non, 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 mais il y a une portée visuelle très, 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 très lointaine.
Alors, c'est ce que vous appelez ourde. Est-ce que c'est un chemin de ronde caché?
C'est un chemin de ronde, non, pas caché.
Non. À l'air libre.
À l'air libre, donc des poutres qui sont tenues par des corbeaux,
oui.
Hein, ces grosses pierres, un parquet, un sol, et des protections avec des fentes
pour ou des meurtrières ou des archères,
pour,
oui.
Pour pouvoir tirer.
Mm-hmm. Mm-hmm. Alors, François, si nous sommes là aujourd'hui, la partie dépendance que vous avez apparemment quittée pour habiter le château est un gîte. Un gîte rural,
voilà, actuel,
c'est à l'heure actuelle.
C'est un gîte.
Et donc, vous habitez dans le gîte combien de temps et dans le château combien de temps?
Alors, à la mauvaise saison, évidemment, nous habitons ce petit gîte très sympathique, très cosy et tout à fait chauffable. Et à partir du printemps, ce gîte est loué et nous réintégrons le château, difficilement au début, parce qu'on a quand même 8-10 degrés, pas plus. Et il faut le temps que la pierre se réchauffe, puisqu'on n'a plus une armée de fourriers et de serviteurs pour allumer les cheminées.
Alors, donc, nous nous trouvons dans la cuisine. Et là, nous avons tout de suite à ma gauche une cheminée, une superbe cheminée. Françoise, vous pourrez nous la décrire et ensuite nous décrire un petit peu toute la pierre qui se trouve dans cette cuisine.
Alors, cette cuisine voûtée servait, comme nous en parlions tout à l'heure, de réfectoire, en quelque sorte, à tous ces officiers qui s'installaient sur des bancs.
Oui.
Devant eux, des tréteaux avec des planches posées qui servaient de table. La table n'était pas au milieu, bien sûr. Et tous ces officiers étaient positionnés de manière à avoir le dos contre les murs. Mmh. Donc, en cas d'attaque, ils étaient certains de ne pas être tués
dans le dos.
Alors, cette cheminée, eh bien, c'est une cheminée monumentale qui date du premier château, qui date du XVe siècle, de ce château militaire qui a été démoli pendant la guerre de Cent Ans. Mmh. Donc la cuisine dans laquelle nous nous trouvons, la cuisine est médiévale.
D'accord.
Oui, ça se voit en particulier à
l'épaisseur
la voûte,
des murs.
À l'épaisseur des murs, mais
ils
aussi...
Ils sont à 1,50 m.
Oui, à la voûte en pierre, qui est magnifique.
La voûte en pierre qui a été restaurée, puisque le haut de la tour était tombé et avait percé le centre de la voûte. Alors, comme toutes les voûtes, une voûte tient par la clé de voûte. Et si quelques pierres manquent, évidemment, c'est le commencement de la chute. Donc, ça a été une de nos premières préoccupations, c'est d'étayer, lorsque nous avons enlevé la terre qui était dans cette salle, puisque le château était entièrement enseveli, nous avons étayé, parce que à chaque pluie, il n'y avait pas de toit, à chaque pluie, à chaque orage, des morceaux de voûte tombaient. Donc on a appris à étayer. Oui. Ça a été un de nos premiers achats. D'accord. des étés très grands, de 4 mètres, de professionnels. Et la voûte a été restaurée par les compagnons du Tour de France. Même technique, on place des étés, on place des cintres, comme dans les cathédrales, comme à Notre-Dame.
Des cintres en bois.
Cintres en bois. Entre les cintres, des contreplaqués marines trempés dans l'eau, ce qui permet d'évoluer au niveau de la voussure. De prendre la forme. Et ensuite, on bâtit par le dessus avec des pierres qui sont très grandes, puisqu'elles font un mètre passé de haut, des pierres assez minces, hautes. Et tout ne tient que par la pression.
Oui, d'accord. Ce sont des pierres bloquées.
Ce sont des pierres bloquées, exactement comme dans une mâchoire, dans un four à pain, dans les voûtes des cathédrales. Oui. On a ces pierres qui ne tiennent que par la clé de voûte.
Oui. Et ce sont des pierres sur champ.
Ce sont des pierres sur champ,
oui.
En épi. Et la finition se fait avec un coulinage de chaux et de sable, pas de ciment, bien sûr, dans ce château, puisque c'est incompatible pH du ciment est incompatible avec celui de la pierre. Ça fait exploser la pierre. Et donc, pour terminer l'ouvrage, par le dessus, on coule un enduit très liquide de chaux et de sable qui va s'imprégner partout entre les pierres, qui va sécher pendant plusieurs mois, 6 mois en l'occurrence.
Ah, effectivement, oui.
Et créer une structure absolument solide qui peut résister des centaines d'années.
Mm-hmm. C'est magnifique, en tout cas.
Oui, effectivement, chers amis auditeurs, si vous avez l'occasion de venir dans ce château et visiter ce château de Lentis, surtout venez parce que ça vaut vraiment le coup. Dans la mesure où vous verrez ce travail énorme qu'a fait Françoise Barbier-Damiette. Et alors, donc nous apercevons cette voûte et nous voyons, là en face de moi, j'ai ce qui s'appelait l'évier à l'époque.
Oui, alors je rectifie, il n'y a pas que moi qui fais les travaux, c'est toute une famille et évidemment tous les amis, les bénévoles et les compagnons du Tour de France qui sont
vous
venus.
Vous en êtes à l'initiative quand même.
L'instigatrice. Hein.
Voilà. donc, alors nous apercevons cet évier, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu l'historique de cet
alors,
évier?
Alors, cet évier, nous l'avons laissé dans son jus. Il représente 3 époques différentes. Une première époque, dans le Moyen-Âge, au XIVe siècle, XVe siècle, où les petites servantes sont très jeunes, elles ont 6 à 8 ans, et elles font la vaisselle à genoux. On a donc une très grande pierre d'évier qui déborde largement dans la pièce et qui sert de réceptacle, et l'eau s'évacue par un gouttoir et part ensuite dans les fossés.
D'accord.
Quelques siècles plus tard, puisque le château du XVe siècle disparaît et démoli, au XVIIe siècle, le temps a changé, les servantes sont plus âgées, elles ont 10, 12, 14 ans. Et là, on va bâtir un évier plus haut, à dimension d'adulte, 2 vasques, un siphon et le gouttoir qui rejoint l'évier. Du Moyen-Âge. Cet évier va servir jusqu'au XVIIIe siècle, et au XVIIIe siècle, dans le Quercy, on ne craint plus les attaques, le château militaire n'existe plus, on ne se bat plus, et les seigneurs de Lentis vont agrémenter cet évier de portes et créer une armoire, c'est-à-dire l'endroit où on va pouvoir poser quelques vaisselles ou quelques plats.
C'est ce que l'on voit, cette niche avec ce sommet arrondi qui est magnifique, tout en pierre bien sûr. Et on voit donc les entailles des pierres pour poser les étagères.
Les étagères, exactement.
Oui, parce que vous disiez il y a bien avant l'émission que en fait la vaisselle est arrivée assez tard. Elle n'est pas arrivée tout de suite, effectivement, dans les châteaux, elle est arrivée très tard.
Voilà, il y avait très peu de vaisselle. Très très peu de vaisselle, on mangeait dans l'écuelle, carrément dans la table, voilà. Puisqu'il y avait des emplacements dans les tables,
des creux dans
les tables où on se servait de façon très rustique. Oui. Il n'y avait pas de couvert non plus, on mangeait avec les doigts.
Oui, c'était des écuelles en poterie, en bois ou en étain éventuellement.
En étain, voilà. Oui, pour les châteaux assez nobles.
Voilà,
mais dans un château militaire comme ici, voilà. On n'a pas retrouvé de plat en étain. Et je pense que c'était très prosaïque. C'était peut-être des écuelles en bois, tout simplement.
Oui. Françoise, au-dessus de la cheminée se trouve un écusson rouge, fond rouge et donc blanc. Est-ce que ce sont les armoiries de la famille qui étaient initialement ici, dans ce château?
Alors, nous avons retrouvé ce blason à la Bibliothèque nationale à Paris. C'est le blason du château du XVIIe siècle.
D'accord.
Le château des Clermont de Toucheboeuf, des comtes Clermont de Toucheboeuf, qui porte donc rouge, on appelle ça de gueule, aux lambelles d'argent herminé, puisque l'hermine représente la magistrature, c'était la noblesse de robe, oui. Et il porte le manteau d'hermine. Mm-hmm. Alors nous avons retrouvé le blason aussi du XVe siècle, que vous verrez dans une autre salle en vitrail, et bon, cette cheminée n'a pas souffert de la dégradation et du temps qui est passé, et elle est restée absolument splendide. Toutes les pierres, nous essayons au maximum de les retrouver, de les collecter. Après, dans les premiers temps de restauration, nous avons eu la chance d'avoir beaucoup de dons de personnes qui restauraient des maisons et qui offraient les pierres significatives de leur maison. Des personnes qui réhabilitaient une grange, par exemple, et qui donnaient des pierres. Et tout le haut du château a été restauré grâce à des personnes de Gourdon qui avaient acheté un terrain avec une vieille maison en ruine. Et ces personnes souhaitaient un bâtiment tout à fait moderne et avec tous les usages modernes du 21e siècle. Et ils nous ont dit, bah, allez récupérer toutes ces pierres, nous vous les donnons et vous nous permettez après de construire sur quelque chose de bien propre. Donc on a récupéré 2, voire même 3 camions de pierres, des pierres du XVe siècle, qui avaient la même taille de pierre que le château de Lortis. Ce qui fait que l'ensemble paraît absolument harmonieux. On n'a pas l'impression qu'il y a eu des reprises, puisqu'on a retrouvé cette chance exceptionnelle de retrouver des pierres de la même époque et de pouvoir les installer sur place.
Un miracle de plus.
Un miracle de plus.
Mais alors, ce qui est intéressant, c'est vous avez reçu des prix pour la restauration de ce château.
Voilà, le château, au fur et à mesure des travaux, a reçu 3 fois le premier prix des VMF, des vieilles maisons françaises. Ça n'est pas un chèque, c'est un bon pour aller près de Paris, à Oudan, pour récupérer des matériaux anciens, homologués monuments historiques, et qui correspondent à la valeur du prix. Et ça, c'est extraordinaire, parce que le château de Lantis a pu se restaurer avec des matériaux anciens. Il n'y a absolument aucun matériau neuf dans le château de Lantis.
C'est ce que nous constatons dans le sol, par exemple, ici, de cette pièce.
Le sol a été retrouvé sous des tonnes de terre et de pierre. Nous avions été surpris, et bon, avec notre œil, bien sûr, du 21e siècle, on s'est dit, mais c'est très moderne, finalement, c'est décoratif, puisqu'il y avait une allée tout autour, en pierre, et au centre, des terres cuites. Alors, tout était en très mauvais état et on ne pouvait pas le garder. La pierre du Lot et Gélive est bien sûr plus de 200 ans sous la terre avec les intempéries. Les pierres n'avaient pas résisté et les terres cuites étaient complètement gâtées. Alors, ça a été le premier prix que nous avons reçu et nous avons reposé ces terres cuites au centre et cette allée de dalles autour, sur sable et chaux, à l'identique, pensant toujours que c'était décoratif. Et comme le château est ouvert au public, nous avons eu la chance, nous avons de très nombreux historiens, archéologues et spécialistes qui viennent nous rendre visite, et qui nous ont expliqué que c'était pas du tout décoratif. Dans un château militaire, c'était utilitaire. Donc, les hommes d'armes s'installaient sur des bancs, les pieds sur les dalles.
De pierre, oui.
De pierre. Et les tréteaux étaient positionnés sur les terres cuites. Donc, s'il y avait la nourriture qui tombait, c'était pas grave. La terre cuite se nettoie facilement. La dalle, plus difficilement. D'autant plus qu'avec les éperons et les bottes et les armures, la terre cuite aurait été très vite dégradée.
Alors, quand nous sommes arrivés tout à l'heure, Françoise, vous nous avez très gentiment accueillis dehors, et nous avions une vision de la façade du château, et on vous disait, mais c'est vrai que la pierre est très belle, mais un petit peu noir. Et vous nous avez expliqué justement que la pluie était à l'origine un petit peu de tout ça. Expliquez-nous comment ça se passe, parce que elle est quand même très belle, cette pierre, malgré tout.
Alors, la pierre du Lot, c'est une pierre calcaire et qui noircit avec la pluie et l'humidité. Et les deux semaines précédentes, nous avons eu beaucoup, beaucoup de pluie, de tempête, et la pierre a bien pris l'eau. Donc, cette pierre noircit. Évidemment, vu l'épaisseur des murs, l'eau ne rentre pas à l'intérieur. Mais elle prend l'eau et le château, je dis toujours, c'est comme un enfant, il fait grise mine. Mais heureusement, maintenant, c'est le soleil qui arrive et la pierre va sécher, va devenir gris clair, puis blanchir, puis jaunir. Et quand il fait très chaud, l'été, la pierre est rose.
D'accord.
C'est assez étonnant. Et bon, au début, on s'amusait à dire oui, c'est le château rose. Parce que la pierre rosit. Alors, est-ce la nature de la pierre ou est-ce que, d'après les historiens, autrefois, vous savez que la pierre n'était pas apparente?
Non.
Tous les châteaux, intérieurs et extérieurs, étaient enduits.
Oui.
Alors, est-ce que ça avait été enduit de terre crue qui laisse une couleur rosée sur la pierre? C'est possible. D'ailleurs, à l'arrière du bâtiment, donc un petit peu à l'abri des intempéries, autour de la fenêtre de la chapelle, donc à l'extérieur, il reste un appareillage d'enduit très ancien, moyenâgeux.
D'accord. Donc, nous revenons à l'intérieur de cette cuisine, donc je ne me trompe plus maintenant. Elle est meublée. Est-ce que ce sont des meubles qui vous appartiennent ou est-ce que cela a été des dons ou est-ce que ça représente le château? L'origine des meubles dans cette pièce, elle est d'où?
Alors, évidemment, sous la terre, il n'y avait plus de meubles. Tout avait disparu. Si nous remontons dans le temps, dans un château militaire, il n'y a pas du tout de meubles. Dans un château militaire, il y a des tréteaux et des bancs. Point final.
Comme vous le disiez tout à l'heure.
Des coffres. Et c'est tout. Alors, nous avons évidemment pris le feu, comme nous avons pu en parler dans une émission précédente. En 2004, la foudre est tombée dans une des tours. Le château a pris feu. Et le peu de meubles que nous avions a disparu dans les flammes. Le château, après sa restauration, s'est vu doté de très nombreux meubles par des bénévoles, par des donateurs qui viennent visiter le château et qui offrent des tables, des chaises, des buffets, des lustres, des secrétaires, un scribane qui est un très beau don, là derrière vous, un meuble d'époque Louis XIII, offert par une famille belge qui avait hérité de meubles et ils ne savaient pas quoi en faire. C'était stocké dans une grange qui prenait l'eau. Et donc, on a eu de très nombreux meubles de cette famille belge. Ce sont les meubles, les scribanes, les premiers bureaux à abattant, avec les petites tirettes en dessous. Et à l'intérieur de ce meuble, il y a énormément de cachettes secrètes, puisqu'on cachait ses courriers du cœur ou ses documents secrets autrefois. Alors, tout dans ce château a été donation.
D'accord. Bon. Mais écoutez, Françoise, nous terminons pour aujourd'hui cette cinquième émission, mais il y en aura d'autres, puisque nous reviendrons au château de Lantis pour continuer. Merci beaucoup, Françoise.
Merci infiniment.
Merci, Marie-Madeleine.
Avec plaisir.
Et donc, à la semaine prochaine pour continuer notre visite du château de Lantis avec Françoise et Marie-Madeleine. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Et au revoir, chers amis auditeurs.
C'était À voir château dans le Lot. Une visite et découverte des châteaux lotois présentés par Martine Dufour et Marie-Madeleine Reille.